France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte. France Musique.
Je m'appelle Suzanne Manoff, je suis née le 23 janvier 1959 à New York et je suis pianiste.
Suzanne Manoff, une rencontre a l'air décisive à cette époque. C'est lors d'un stage d'été avec une pianiste qui s'appelle Gwendoline Koldowski, qui elle-même a été pianiste accompagnatrice de chanteuses telles que Marilyn Horn ou Lotte Lehmann.
Oui.
Vous aviez rencontré des accompagnateurs de chanteurs ou de chanteuses dans votre parcours ou c'était la première fois vraiment que vous rencontriez la... une personne qui est votre alter ego, en fait.
Mmh. Ah, c'est vraiment ça. C'est bien dit. C'est, it was a meeting, comme on dit. Je ne connaissais pas beaucoup de pianistes qui cherchaient vraiment à aller dans ce langage-là. On était tous, je pense qu'on jouait tout. Et puis, j'étais vraiment partie dans le répertoire solo et musique de chambre avec instruments. J'avais quelques amis chanteurs. Et c'est un hasard qui a fait la rencontre avec Mrs. K, comme on l'appelle.
C'est, elle avait un certain âge déjà, non?
Oui, elle avait un certain âge. Et la doyenne du département de chant est venue, Exine Berry, est venue me voir. Elle m'a dit, Suzanne, il me manque quelqu'un, un pianiste ou une pianiste, pour le stage de mon amie Gwendoline Koldowski. Est-ce que tu peux prendre cette place? Et j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai trop de choses à faire. Et puis, si j'ai du temps, je vais partir marcher un peu. Et elle m'a dit, je pense que tu ne le regretteras pas. Et comme elle avait raison. Et la rencontre était immédiate. Je ne sais pas comment vraiment dire ça en peu de mots, ou peut-être il n'y a quasiment pas de mots. C'était comme si je me trouvais. Je la connaissais et je connaissais en elle quelque chose que je sais long time ago, que je savais depuis longtemps. C'est comme si c'était une reconnaissance. Je me suis reconnue. Elle était toute petite et les mains étaient déjà un peu déformées, des yeux qui brillaient. Puis toutes ces choses-là qu'on voit à l'extérieur et dedans, tellement palpitantes et tellement en phase, tellement ancrées, tellement remplies de passion et d'amour. Et avec la vie qu'elle avait, qui avait une certaine souffrance aussi à l'époque, de dépasser ça et d'être constamment branché sur l'autre. Et cette rencontre, je trouvais que j'avais jamais rencontré quelqu'un en dehors de mon cercle, peut-être en dehors de ma mère, de si quelqu'un, c'était la plus belle femme que j'avais jamais rencontrée. Je suis tombée amoureuse, mais je me suis perdue. Et ça m'a fait du bien de me perdre, parce que du coup, la raison trop dure en moi, elle a lâché. Et je me suis dit, peut-être je peux suivre ce chemin et voir où ça m'emmène. Et c'était une très bonne décision. Et donc du coup, j'ai travaillé avec elle. J'étais à sa rencontre dès que je pouvais. Elle est venue en Oregon plusieurs fois et je l'ai suivie à Santa Barbara, peut-être le dernier été avant mon arrivée en France.
Thank you.
Elle vous ouvre les portes du répertoire, du lead, de la mélodie?
Oui, elle ouvre la porte aussi de, oui, du répertoire, du langage, du verbe, des langues, de la danse entre mots et musique, l'amour du chant et des chanteuses et des chanteurs, la connexion réelle, le partenariat que c'est. Et aussi, elle avait ses règles d'or qui étaient très simples, qui étaient le mot et reine. Et d'abord le mot. Donc c'était même si on parlait mal une langue, il fallait qu'on fasse l'effort physique, musculaire, d'essayer de cracher un texte dans la langue dans laquelle il était écrit, et ensuite qu'on le traduise en langue maternelle. Donc chaque personne traduisait dans sa langue maternelle. Et ça donne, et ça continue à donner tant d'années plus tard, des résultats assez extraordinaires parce qu'on se rend compte qu'on dit des textes et on n'a aucune idée ce qu'on dit, souvent. Ou on est tellement obsédé par le son et l'articulation qu'on oublie complètement ce qu'on dit, ce qui vit derrière, ce mot essaie de nous passer.
Parlons-en de votre rapport aux langues, parce que votre langue maternelle, c'est l'allemand.
Oui, j'ai parlé d'abord l'allemand à New York, et très vite, je laissais tomber l'allemand. Enfin, je pense qu'à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, je parlais surtout l'allemand.
Et russe aussi un peu?
Non, pas du tout. Maman ne parlait pas russe. Ma grand-mère, oui. Mais elle n'a pas transmis ça à ses enfants parce qu'ils ont quitté la Lettonie à l'âge de, maman, elle avait 4-5 ans. Puis c'était une famille balte-allemande. Donc, je pense que la langue à la maison, pour eux, c'était l'allemand. Et mon père, il vient de Dortmund. Voilà, c'était l'allemand. Et donc, du coup, je pense que je vivais tout comme étant une chose normale jusqu'à ce que je tâte mes entrées dans la société qui était par mon ami Chucky, qui était mon voisin, que je trouvais très mignon, un an plus jeune que moi, je crois.
Vous aviez quel âge, là, à l'époque?
Je devais avoir 4 ans ou 5 ans, et puis on jouait ensemble sur les marches de la maison, dans le Queens, face à ce grand stade de baseball où il y avait une école de garçons que je matais plus tard pour voir comme ils étaient beaux.
Et là, vous apprenez l'anglais dans la rue?
Avec Chucky, il fallait bien que je trouve comment communiquer avec lui. Donc, c'est devenu important. Et puis, il y avait les voisins autour. Autour, on avait des Italiens, des Ukrainiens, des Polonais. Il y avait beaucoup de gens, c'était Italien, un peu espagnol, mais beaucoup de gens des pays de l'Est et d'autres Allemands. C'était un quartier d'immigrés. Donc, quelque part, chacun parlait sa langue et ça posait pas trop problème. Tout le monde apprenait l'anglais aussi. Et donc, j'ai appris et petit à petit, c'est avec le regard à l'école où certains enfants me traitaient de sale allemande, c'est là que j'ai commencé à avoir un problème avec l'allemand.
Découvrez tout ce répertoire de lead et de mélodie, tout le répertoire allemand, du coup, s'ouvrait aussi à vous, s'offrait à vous.
Et s'ouvre la faille, s'ouvre une sorte de brèche, parce que là, il y a la douleur de ce qu'on a voulu fuir. Je pense que...
Vous aviez oublié l'allemand?
Non, je ne l'ai pas oublié, mais je le parlais très peu, de temps en temps avec mes parents, J'étais contente de pouvoir lire dans les sonates de Beethoven ce qu'il voulait dire quand il y avait, voilà, dans la partition. Mais j'avais pas d'amis allemands, vraiment. J'avais pas l'occasion de parler à l'allemand. Ma problématique avec la langue est devenue plus aiguë. Elle s'est présentée à ma porte. C'était pas la problématique avec la langue, mais avec mes origines. Donc, ce n'est pas un mince sujet. Je me suis rendu compte de plusieurs choses à travers les années. C'est que le problème, il venait en partie de moi, de l'incapacité enfant, puisque enfant, de répondre à un autre enfant qui dessine des swastikas sur mes cahiers, de commencer à dire que ben non, j'étais pas une nazi et mon père ne l'était pas non plus, mais d'être face à une Amérique qui avait vraiment ses idées. Et que les enfants de GI qui voulaient absolument dire « moi j'étais mauvaise », c'était cette mauvaise langue. Après, des années plus tard, tout ça, et en fait parallèlement, j'étais fascinée par ce que je trouvais l'ouverture de tous mes amis au conservatoire, parce que tous juifs, et tous venant de familles qui avaient horriblement souffert. Et du coup, entre la culpabilité d'être allemande et la culpabilité catholique, ben c'est la culpabilité. Elle était grosse comme Mount Everest, elle était plus grande que ça, et j'avais l'impression d'être parfois dépassée par elle. Et c'est pas, on peut pas grandir avec une culpabilité pareille, et on peut pas jouer. C'est très difficile d'être libre de son corps et de son être et d'aller là où on est appelé. Et donc, c'était un appel fort, Koldowski, avec ses histoires de langue. Quand je commençais à dire un texte en allemand, je ne pouvais pas le dire sans éclater en sanglots. Et elle m'a dit, quelques années plus tard aussi, parce que c'était une année de rupture aussi sentimentale, là, je pleurais encore plus. Elle m'a dit, mais dear, dear, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle, laisse le piano. Et puis, donc, elle m'a dit plusieurs choses très importante, la plus importante étant, tu sais déjà ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Elle m'a parlé de la musique comme personne m'avait parlé. C'était encore cette rencontre. Elle m'a dit, tu sais, toi, tu le sais que la musique, elle est là. Elle ne changera pas. Elle est là. Elle sera toujours là avec toi. Et du coup, c'est la musique et c'est ce texte et puis le début de l'allemand de me dire, oui, c'est aussi moi et c'est une partie de moi. Et petit à petit, je pouvais dire ces mots et je pouvais les respirer parce que les cracher, c'est une chose. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Et de pouvoir dire un texte entier comme ça sans s'effondrer ou tomber dans la faille, ben, il m'a fallu énormément de souffle et beaucoup d'années. Et beaucoup de recherches aussi sur moi-même, un travail de mémoire, la mienne, celle de mes ancêtres, ce que je peux percevoir de cela, jusqu'à ce que peut-être un jour, je fasse des rêves qui m'ont tout raconté, où j'ai pu à nouveau dire « oui, je suis aussi allemande ». Thank you.
Les grands entretiens de Suzanne Manoff, France Musique.
Et après est venu le français par la suite.
Quand est-ce qu'il est venu le français ?
Le français était présent au lycée parce qu'on avait une prof, Madame Emo, à New York. Mais je dirais que je ne parlais pas du tout français en quittant le lycée. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'amour de Debussy, de Ravel, de Satie, de tous ces compositeurs-là, et puis tellement d'autres, est venue une conception aussi de l'appui et de la texture de la langue et de la musique, et aussi de ce qu'une langue fait au corps, comment on change selon la langue qu'on parle. Je me suis rendu compte avec le porte qui s'ouvrait grâce à Koldowski, que le français, j'ai trouvé cette langue très très belle, un peu fuyante, et que du coup, tant que je ne l'avais pas dans mon corps, tant qu'elle n'était pas incarnée, je ne pourrais pas non plus jouer la musique.
Mais le français, c'est une langue qui a peu d'appui, qui a peu d'accent, c'est une langue difficile à chanter. Et vous en tombez amoureuse?
Oui. C'était, Ciccolini a à voir quelque chose là-dedans.
Vous tombez amoureuse de Ciccolini?
Oui. Je trouvais qu'il jouait pas mal. J'aimais beaucoup, son Debussy, parmi d'autres, mais j'ai beaucoup écouté dans mes années en Oregon, Debussy.
Et c'est Satie aussi?
Oui, évidemment. C'est la question de la langue. Quand j'entends mes partenaires chanter en français, pour moi, c'est une langue qui permet la transparence plus que les autres. Elle permet aussi le métaphore différemment. Par exemple, si je vais dire quelque chose aujourd'hui, je pense que parfois, c'est plus facile pour moi d'invoquer ou évoquer quelque chose en parlant en français, même si mon français est parfois un peu étrange, parce que l'anglais est encore lié à une façon de penser plus ancienne. Et le français, je me permets plus de divaguer, je me permets plus de quitter la voix pour aller voir un peu ce qui se passe derrière les choses.
C'est une aventure encore.
Oui, c'est une aventure. Et comme c'est une langue non saisissable, finalement, on peut pas s'agripper au français. On peut s'agripper à une idée. On peut s'agripper, entre guillemets, à un but, à une intention. Ou d'un coup, quelque chose est dit. Mais c'est un peu comme la musique. C'est dit, mais ça s'en va en fumée. Et là, when if I were to speak American, I could speak it really with strong, powerful accents and become physical and kind of dance with the words and convince you of something. Le français, même si je veux tout, déjà c'est différent dans le corps, mais
votre placement de voix est différent là.
Totalement différent. C'est totalement différent.
La tonalité est différente.
Oui. Et par moments, c'était pour moi aussi un refuge. Refuge de cette langue avec américaine et en allemande avec tant d'accents, avec tant de formes en granit. Certes, avec ses subtilités, si on lit E.E. Cummings, c'est tout sauf enfermé. Mais la découverte de l'insaisissable, pour moi, dans le français, était quelque chose qui m'attirait énormément. C'est toujours, par moments, très perturbant, parce qu'on voudrait savoir exactement ce que c'est, et on ne sait pas trop.
Pour fuir la vie à bord de nous, je me noierai dans ta.
Un magnifique livre pour les pianistes sur le travail de l'interdépendance des doigts, qui en allemand s'appelle Greifen und Begreifen. Et ça veut dire, Greifen ça veut dire saisir et Begreifen veut dire comprendre. Et ce sont des mots forts. Le saisir quelque chose et le comprendre, en français j'ai l'impression qu'un mot on voudrait le saisir, mais on peut pas le saisir, mais on le comprend sans l'avoir saisi. On peut pas le tenir dans la main, on peut pas le sculpter, on peut si on veut, on peut essayer de lui donner forme, mais il file tout le temps entre les interstices, entre les doigts et dans les pores. Il est là et d'un coup il est parti en fumée, il faut le ramener. Et c'est ça qui est génial, qui est comme le son. Le son, on peut essayer de le tenir proche de nous au piano, où on peut le laisser filtrer ailleurs, où on peut se laisser pénétrer et traverser par lui. Le français était un portail pour cette exploration.
Prélude de la suite bergamasque pour piano de Claude Debussy sous les doigts d'Aldo Ciccolini, que Suzanne Manoff admirait beaucoup et qu'elle cherchera à rencontrer à Paris. On l'entendra demain à la même heure dans le 4e épisode de ses grands entretiens. À la réalisation, Gilles Blanchard, prise de son Raymond Albouy, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Pour retrouver les références discographiques, pour réécouter ou podcaster ses grands entretiens, rendez-vous sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.